vais vous raconter l'histoire de la voix. Une voix qui semble venue de loin, de très loin, pour nous dire quelque chose, pour nous toucher. Mais d'où vient-elle au fond, cette voix capable de nous toucher? Est-ce qu'elle vient du fond du ventre ou est-ce qu'elle vient du fond des âges? À qui appartient-elle au juste, cette voix? Évidemment, c'est la voix de cette femme qui chante ici et maintenant. La voix de cette femme qui parle ici et maintenant. Mais elle est pleine aussi de toutes ces autres voix, de toutes ces autres femmes qu'elle a aimées, qu'elle a écoutées. Évidemment, c'est la voix de cette femme qui chante, mais elle est en même temps traversée par autre chose qu'elle-même. N'est-ce pas exactement cela, chanter? Se laisser traverser et n'être jamais autant soi-même qu'à cet instant-là? Écouter la voix de cette femme qui chante, n'est-ce pas alors comprendre que nous ne sommes jamais autant nous-mêmes que lorsque nous nous ouvrons à ce qui n'est pas nous, lorsque nous nous laissons traverser par autre chose que nous-mêmes? Il faut s'établir à l'extérieur de soi, écrit René Char, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise, qui n'était que pour nous. Et si c'était cela, chanter, s'établir à l'extérieur de soi, pour que finalement advienne quelque chose qui n'était que pour nous, et in fine exprime notre singularité, notre personnalité. Parfois, on allume la radio et en une seconde, à la voix entendue, on reconnaît la personne qui parle. C'est étrange, mais il n'y a aucun doute, c'est Christine Angot. Il n'y a aucun doute, c'est Édouard Baird. Il n'y a aucun doute, c'est Christophe Ondelat. Comment une voix peut-elle, à ce point, résumer une personne ? Merleau-Ponty disait qu'on reconnaît quelqu'un en une seconde à son style, à sa démarche dans la rue, à sa manière unique de se détacher du reste du monde. Et si c'était la voix, plus encore que la démarche, qui disait le style inimitable d'une singularité? Mais comment cette voix, qui sort du corps, peut-elle être si spirituelle? Comment cette voix peut-elle exprimer autant l'intériorité dans le moment même où elle s'extériorise et se met à résonner? Pour en parler ce matin, de ce que c'est qu'une voix et de tout ce qu'une voix dit de nous, j'ai la joie de recevoir Lou Doyon, une chanteuse qui a une sacrée voix. On sent qu'elle a dû kiffer davantage sur Catherine Ringer, Nina Simone ou PJ Harvey que sur les voix délicates de petites choses blondes qui murmurent tout bas. Lou Doyon, donc chanteuse, auteur, compositeur, interprète, mais aussi actrice, styliste, égérie, dessinatrice. Lou Doyon, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon, dans la caverne brûlante de France Inter, pour nous aider à entendre résonner cette belle question. Qu'est-ce que notre voix dit de nous?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Lou Doyon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon. Je vais commencer cash. Est-ce que votre voix, selon vous, parle bien de vous?
Oui, j'espère. Ce qui est effectivement troublant, et vous l'avez évoqué, c'est à quel point on maîtrise pas la voix. Et la voix, c'est quelque chose d'étrange. On se rend compte d'ailleurs, particulièrement notre génération, c'est peut-être le mal de ce siècle, c'est qu'on peut entendre notre voix, et on voit bien en tant que parent, par exemple, quand on filmait les premiers moments et qu'on revoit ces bandes et qu'on entend notre voix au premier plan, absolument atroce, stridente. Et c'est rigolo de voir que systématiquement les gens disent « Éteins, je supporte pas ma voix ». Au cinéma, la première fois qu'on se voit, c'est pas le visage, c'est la voix qui nous trahit d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un outil merveilleux parce que on peut mentir avec le reste. Avec la voix, on a du mal. Je me souviens quand j'étais plus jeune, dans premier bout de carrière, je travaillais avec mon père, Jacques Doyon. Et j'étais intriguée parce qu'il regardait, il ne re-regardait pas les prises, il les réécoutait. Et je disais, mais pourquoi tu regardes pas? Il me disait, mais parce qu'à l'image, je peux me faire magouiller. Mais à la voix, c'est pas ça, possible. Ouais. Et c'est vrai, moi, quand je monte sur scène, le pire est d'avoir trop d'émotions. Si les larmes montent, il n'y a plus de voix, il n'y a rien à faire. Si vous avez envie de pleurer, la gorge se serre, et alors là, il n'y a plus de voix.
Ça vous est arrivé sur scène?
Ça m'est arrivé sur scène et c'est terrifiant parce qu'effectivement, on travaille avec notre émotion quand on est sur scène et avec la voix, évidemment, qu'on travaille avec l'émotion. Et là, c'est le malheur de cette émotion ultime, la plus forte, l'émotion des larmes, larmes de joie, larmes de peine. Mais là, on ne peut plus rien faire. Et c'est très handicapant de se rendre compte que là, il n'y a plus de voix.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que, en fait, on chante en se laissant traverser. Vous dites, on ne maîtrise pas, même si, évidemment, on travaille sa voix, on travaille ses chansons.
Bien sûr.
Mais pour autant, c'est dans ce moment-là qu'en fait, on exprime sa vérité.
Oui, et qu'après, on peut travailler avec l'outil qui est le nôtre, mais cet outil-là est le nôtre pour des raisons qui nous échappent un peu. C'est, je pense que le plus on travaillera, le plus on gagnera en voix. Mais la nature de cette voix-là, son timbre, sa couleur, effectivement, est donnée à la naissance pour des raisons physiques, physiologiques. Le masque aussi en chant, donc c'est la forme de votre visage, la forme de votre bouche, l'implantation dentaire, enfin il y a plein de choses. Si on rentre dans la bouche, il y a plein de choses à voir dans la bouche, mais c'est le souffle. Et après, forcément, c'est votre capacité ou non de laisser tout devant, d'une certaine manière.
Tout devant, c'est-à-dire ? Ah oui, de pas cacher, quoi.
De pas cacher et d'être dans l'expression, qu'on le veuille ou non. Moi, quand j'ai commencé à chanter, j'étais déjà âgée, entre guillemets, et c'est vrai que ma prof de chant rigolait en disant « Mais tu es tellement expressive déjà avec le visage que tu fais la moitié du travail. Après, on travaillera chant derrière. » Mais donc, j'avais la chance d'avoir déjà un visage un peu cartoon qui sourit beaucoup. C'est des exercices de visage. Si vous ne bougez pas trop la tronche, déjà, le son bouge moins.
Là, vous avez une façon de chanter, moi je le reçois comme ça en tout cas, vous aimez beaucoup les mots, vous les prononcez bien, vous les articulez bien, vous les faites beaucoup résonner, il y a une diction particulière qui est très étonnante, hein. C'est pas très français d'ailleurs, on dirait une chanteuse de folk américain, presque de country parfois, c'est bizarre quoi. C'est quoi ce rapport aux mots très particulier? On sent qu'il y a un rapport aux mots qui vous traverse, qui n'est pas que dans la chanson.
Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes qui pourraient ne pas se rejoindre et qui finalement se rejoignent. Il y a déjà le fait que, petite, il fallait que je lise, et pour ne pas mentir et que ne pas m'agouiller dans ma chambre, j'étais tenue de lire à haute voix.
Ouais, donc, c'est marrant.
Donc je commence en lisant à haute voix, et puis ça me plaît assez de lire à haute voix, et je me rends compte, adolescente, que j'adore lire la poésie à haute voix, que ça soit en français ou en anglais, parce qu'il y a un rythme dedans qui m'excite beaucoup, au sens premier de l'excitation, d'avoir des rimes qui claquent, d'avoir des phrases, les phrases longues, les phrases courtes. J'ai un père un peu cinglé qui m'apprend la ponctuation comme si c'était de la musique. Donc il s'agace quand je dois faire des poésies à haute voix et que je mets la bonne musique qu'on met quand on est enfant, le nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan insupportable et donc
mais le ton, c'est ça.
Mais le ton et surtout il me disait voilà une virgule c'est pas un point virgule c'est pas un point donc voilà une virgule tu mets un temps et puis un point virgule tu mets deux temps et puis un point tu mets
c'est
trois
dingue.
Temps.
Ouais.
Donc il y avait cette excitation
obsessionnelle
de la ponctuation.
Ouais. C'est marrant.
Et ensuite, j'ai pris des cours de théâtre quand j'avais 19 ans, avec une professeure du français qui s'appelait Micheline Boudet, et qui me faisait travailler la méthode Leroy, qui est une méthode du début du siècle, pour bien prononcer, parce qu'elle me disait le drame
de
votre génération.
Ah oui, j'ai pas rêvé.
C'est que vous ne prononcez pas, et vu que moi je venais en plus du cinéma d'auteur, dans lequel on parle à fond la caisse et qu'on prononce rien, elle me disait, alors ça non. Donc je faisais des exercices de voix. Et ensuite est arrivé le chant et j'ai des problèmes en fait de cordes vocales, j'ai une malformation qui fait que je me bats entre ne pas avoir de souffle, avoir techniquement un problème vocal qui m'empêcherait normalement même de parler, et de l'autre côté avoir un amour des mots qui fait que j'aime les détendre, les tendre, les retendre, qu'ils soient élastiques, qu'ils se baladent, autant en anglais qu'en français. If I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end.
Alors, j'ai choisi cet extrait de votre premier album, Places, de 2012, un album qui a eu une victoire de musique en 2013, je crois, pour plein de raisons. Mais d'abord, on entend très bien ce que vous venez de dire, cette façon de mâcher les mots, mais justement pas de les mâcher au sens de les faire sonner, de les faire résonner, de les faire entendre. Et puis, ça s'appelle Questions and Answers, et donc ça m'intéresse, parce que c'est les questions et les réponses, et je me demande ce que vous préférez déjà, mais ce qui me choque, c'est la fin de la chanson, puisque à la fin, on entend Questions and Answers, questions, et puis ça finit sur les réponses. Moi, je me dis, il y a un cut très sec. Ça s'arrête, c'est évidemment travaillé. C'est bizarre, on est dedans et puis ça s'arrête net sur les réponses. Alors, est-ce que vous avez réfléchi et est-ce que vous avez volontairement, donc c'était il y a plus de 10 ans, je sais, mais est-ce que vous avez le souvenir de ça Est-ce que vous avez fait exprès de s'arrêter, de vous arrêter sur les réponses? Et pourquoi ne pas s'être arrêté sur les questions? Ça aurait été plus beau.
Ah mais je pense très certainement à cause de ça. Après, le premier album, c'est quand même une nouvelle expérience et je suis très réticente à l'idée de ce premier album. Pas de l'avoir fait, parce que j'avais écrit toutes les chansons, j'aimais chanter, j'aimais les mélodies. Mais la démarche m'angoissait énormément et donc j'ai vraiment été épaulée par Étienne Dao, qui a produit tout le premier album. Et donc je pense que ça a dû se régler vu que j'étais assez consciencieuse et je voulais pas qu'on dépense trop d'argent, que j'étais convaincue qu'on n'arriverait jamais à rembourser. Donc on a enregistré l'album en entier en 10 jours, donc les décisions étaient plutôt du tac au tac. C'est lui qui aimait qu'il y ait ce doublé de questions and answers. Moi j'aimais pas, moi je voulais que ça soit ou questions ou answers, mais j'aimais pas le pont questions and answers, questions and answers, parce que justement je trouvais que ça rendait dingue. Et donc on l'a arrêté, je pense, on a dû trouver comme compromis de s'arrêter là. Et effectivement, moi qui passe mon temps à poser des questions...
Oui, vous préférez les questions que les réponses, il me semble.
Bah, les réponses, elles changent tout le temps. les questions ont tendance chez moi à rester les mêmes, et les réponses, elles changent tout le temps.
J'avais entendu dire que vous aviez compris, en discutant avec Étienne Dao, donc, qui a donc produit votre premier album il y a longtemps, qu'il fallait 7 ans pour qu'on comprenne le sens d'une chanson. Vous avez un exemple concret?
Ah oui, il y a des choses très troublantes. Il y a des exemples qui seraient trop personnels, et j'aime bien justement l'exercice de l'écriture d'une chanson, parce que c'est un format très étrange. 3 minutes 30, c'est une page ou deux en gros, sauf si on rappe et que là ça peut devenir 5-6 pages, mais sinon c'est assez court et c'est plutôt beau. En tout cas moi c'est ça qui me plaît le plus dans le blues, dans le rock et dans la folk anglaise, c'est le fait que c'est très ouvert, qu'on n'est pas, on ferme pas. Donc un exemple qui pourrait être qu'est-ce que je pourrais trouver?
J'ai bien vu là, vous avez un exemple en tête que vous voulez pas donner.
Non, il y a des choses drôles. Oui, bah par exemple sur le premier album, il y a, je pense que c'est Same Old Game, qui est sur une fille qui se fait tromper. Et je me souviens de l'avoir écrit en me disant, mais alors moi vraiment, je suis une vraie auteure parce que j'arrive à écrire des choses qui ne m'arrivent pas. Ah oui. Et puis je sais écrire de la fiction et vraiment je m'inscris dans la grande lignée des filles qui écrivent de la fiction. Et évidemment, j'ai appris un an plus tard que je me faisais allègrement tromper à ce moment-là. Donc déjà, on peut être branché avec l'inconscient sans
savoir.
Finalement,
c'est ça que vous ne vouliez pas dire. Bon,
okay. Non, ça c'est celle que je peux dire. Mais sinon, non, il y a des choses effectivement troublantes de se dire que très souvent, quand on s'adresse à l'autre, surtout quand c'est un peu véhément et désagréable, on se rend compte d'une manière terrifiante quelques années plus tard que ça pourrait être sur soi.
Qu'on s'adressait en fait à soi. Oui.
Qu'en fait, on s'adressait complètement à soi. Et puis, il y a des choses étranges comme Places, qui est un vrai hasard de je ne savais pas comment nommer. C'est toujours compliqué pour moi de nommer un album. Je trouve ça dur de résumer. J'aime les phrases longues, comme vous pouvez le voir, et j'aime pas des réponses courtes. Donc, nommer l'album, ça m'emmerde. Et Étienne n'arrêtait pas de me dire, mais c'est très important, c'est très important. Donc, pour me défausser, j'ai dit, bah, tu sais quoi, dernière chanson enregistrée, ça sera le titre de l'album. Dernière chanson enregistrée, c'est Places, qui devait pas l'être d'ailleurs. Il y avait un problème, on devait faire des chœurs avec nos enfants. Bref, dernière chanson enregistrée. Quel cadeau, 6 mois après, pour toute la presse, de dire « Mais vous avez trouvé votre place avec Places !» Et d'un coup, que dire? Je pense que, un, c'est vrai. De deux, c'était absolument pas ça que dit la chanson, d'ailleurs, parce qu'elle parle du fait qu'on cherche des places qu'on trouve jamais.
Ouais.
Mais effectivement, dans ma vie à moi, Places m'a mis à ma place, au centre de cette place qui est la chanson folk en France, et dans quelque chose de plus à ma place que je l'avais jamais été avant.
Parce que vous voulez dire qu'au sein de vos diverses activités, donc actrice, égérie, styliste, dessinatrice, finalement, cette identité multiple trouve une sorte d'axe quoi dans la chanson.
En tout cas, tout prend sens. Il y a plusieurs choses dans l'acte artistique. Il y a le fait de faire. J'aime faire et je fais depuis longtemps et j'ai tendance à faire, pour moi, à peu près la même chose sous des médiums différents, que je sois en train de dessiner, de chanter dans un film ou au théâtre. Ça part du même endroit, c'est le même plaisir. Maintenant, il y a un cumul des plaisirs en musique qui est assez fantastique, parce que ça me permet d'être sur scène, ce que j'adore faire quand je suis au théâtre. Ça me permet de jouer comme j'aime faire quand je suis au cinéma, ça me permet de d'être dans de l'iconographie visuelle, parce qu'être sur scène, il y a une part du visuel. Créer un album, il y a du visuel aussi, il y a de la narration. Je viens encore d'une vieille génération qui aime faire un album qui s'écoute dans l'ordre, ouais. Qui raconte une histoire. Et puis oui, il y a la capacité de s'inventer, de tricher, de se mettre à nu. Il y a toutes ces ambivalences, toutes ces, il y a l'humilité de le faire, il y a l'ego monumental de s'y mettre.
Est-ce que vous avez des problèmes parfois à trancher, à choisir, à renoncer à certaines choses pour en faire d'autres?
Non, ça se joue assez naturellement. Je sais, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec Arthur Nosiciel au théâtre et on a travaillé plusieurs années, notamment autour d'un Beckett et puis plusieurs projets qui avançaient vers un climax qui était de faire La Mouette à Avignon. Et quand d'un coup La Mouette se profile et que c'était quand même le Graal pour une actrice, surtout pour une actrice de théâtre, de se dire on ouvrait Avignon. C'était un mois après que j'ai fini l'album. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une vraie amitié en Arthur, parce que je pensais que plus jamais il m'adresserait la parole. J'ai planté la pièce en disant je vais pas réussir à être à mon propre service le jour, être quelqu'un qui est redoutablement elle-même pour trancher dans des chansons que j'avais écrites moi, et le soir, être absolument à toi. Je trouve qu'être actrice...
Surtout plusieurs soirs. De suite.
Plusieurs soirs, ouais. Mais surtout dans la générosité. Être actrice, c'est vraiment, c'est se donner à. Et là, pour la première fois, je devais faire un exercice très compliqué qui était d'être celle qui décidait de tout. Et d'ailleurs, maintenant, ça fait 10 ans et 3 albums plus un EP plus tard. Je suis fatiguée dans le bon sens, c'est-à-dire que d'être créateur et d'être décisionnaire. Et
donc vous avez su renoncer au fond, vous avez su renoncer à quelque chose.
J'ai dû, et c'était une très bonne chose. Je pense que j'aurais pas réussi à faire les deux, et si j'avais fait les deux aussi, c'est peut-être des relents protestants. On n'a pas le droit de vivre trop de trucs chouettes en même temps, je pense.
Puis après, vous avez aussi accepté d'être remplacé. Hein. Finalement, ça, on le vit bien.
Ah, mais ça, bien sûr. Et surtout par quelqu'un qui pouvait se donner entièrement. Moi, là, je savais que je suis polyvalente et monomaniaque. Donc, je fais plusieurs choses, mais quand j'en fais une, je sais faire que ça. Je sais pas me diviser. I've been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind. 'Cause I've been out of touch, lost within, bought without. I sit chain smoking, I empty the bars. Yes, my laugh has turned fake, and my tears have turned dry. But my bluff is so fine, no one takes the time. But you will rise, fly high, and come claim me. Yes, you will rise, fly high, and come climb up. I've been killing my time for too long, but no, I don't even know how to catch back with the flow right now. Nothing feels right and I'm glued to the floor. And everything I try, I did better before. So I do and undo myself of a name. I tear off the mask and I put up with the fame. You should rise, fly and come climb me. For something to sparkle my mind, 'cause I've been out of touch, lost within, bored without. I sit chain smoking,
and I empty the bars. Yes, my laugh has turned fake, and my tears have turned dry. But my bluff is so fine, no one takes the time. Been killing my time for too long, but now I don't even know how to catch back with the flow right now. Nothing feels right, and I'm glued to the floor. And everything I tried, I did better before. So I do and undo myself over now. I tear off the mask, and I put up with the fade.
C'était Claim Me de Lou Doyon, un titre de 2020.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Alors nous sommes toujours avec Lou Doyon et nous parlons de ce qu'une voix révèle d'une personnalité. On vient de l'entendre, cette belle voix, cette manière de faire résonner les syllabes, ça me fait penser à l'œuvre du sociologue allemand Hartmut Rosa. Est-ce que vous connaissez ?
Non.
Alors je vais raconter un petit peu ce que c'est parce que c'est assez marrant. En fait, vous êtes un peu hyperactive. Mm-hmm. Vous faites tout le temps quelque chose. Vous êtes très active sur Instagram, donc on voit un peu votre quotidienneté, enfin ce que vous voulez bien montrer. On voit que vous faites tout. Vous dessinez, vous faites la cuisine, vous occupez de vos proches, vous faites de la musique, du théâtre, du cinéma, et j'en oublie, et des vêtements, enfin bref. Or, que nous dit Hartmut Rosa ? Que notre époque est caractérisée par deux grandes tensions, deux grands mouvements. Un mouvement qui va vers l'accélération. Mm-hmm. Tout va plus vite. Les flux, les personnes, les idées, les infos, tout s'accélère. Et que ça nous détruirait s'il n'y avait pas un contrepoison qui est la résonance. Et là, je vous ai donné deux titres de livres géniaux d'Hartmut Rosa. L'un qui s'appelle Accélération et qui diagnostique le mal. Et là, on pensait qu'on était tous morts, qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et puis, 3 ans après, il sort un livre dans lequel il y a la solution. Et la solution, ça s'appelle résonance. Mmh. C'est-à-dire que dans la hâte, il faut qu'on soit encore capable de faire caisse de résonance, de s'écouter, de se regarder, de ressentir. Et on n'est pas obligé de partir un mois dans un ashram en Inde pour s'arrêter et que ça résonne. Il suffit de chanter, d'écouter une belle chanson. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous proposez. C'est que vous êtes speed, vous êtes hyperactive, mais vous savez vous arrêter. Et ce que fait votre voix, c'est proposer une résonance.
Mmh. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et effectivement, je pense que c'est la tension entre les deux. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs, ça me plaît souvent d'être en promo ou de quand dans les émissions des fois ils font un résumé de votre vie, d'un coup je respire en me disant ça va, j'ai fait 2-3 trucs, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression de rien glander toute la journée, d'être terriblement lente, et je prends tellement de plaisir, je prends du plaisir à lire, énormément de plaisir à lire, ce qui aujourd'hui est un temps étrange à trouver, hein, de passer 3-4 heures à lire, on a l'impression qu'on a pris trop de temps pour soi.
Qu'on n'a pas le droit.
Mes amis savent qu'une de mes obsessions, c'est les maquettes. Donc autant vous dire que ça prend énormément de temps et que c'est d'une lenteur extrême. Les dessins que je fais sont faits d'un seul trait, et je dessine 5-6 heures de suite sans m'arrêter, et c'est très très lent. Ça peut endormir les gens qui sont dans le coin. Et quand je fais de la musique, j'ai vraiment l'impression que ça se rapproche d'une forme de broderie, de ritournelle, de ça boucle non-stop et j'y reviens et je repars. Là où j'ai de la chance, c'est que c'est contré par une capacité de trancher violemment, un peu comme les Les bulldogs sont des chiens qui me plaisent beaucoup et qui sont très drôles. Les mères bulldogs ont une fâcheuse habitude qui est qu'elles font tellement attention de s'occuper de leurs chiots qu'elles les entourent, elles les entourent, elles les entourent, elles les entourent tellement elles veulent bien faire. Et au bout d'un moment, elles en peuvent tellement plus qu'elles s'allongent sur deux, trois et elles en tuent souvent sans faire gaffe. Je peux être proche.
C'est la sauvagerie maternelle dont parlait Anne Dufour-Mantel, la psychanalyste.
Donc, à force de vouloir bien faire, au bout d'un moment, on tire un peu la langue et j'ai tendance au bout d'un moment à se dire bon allez on va trancher et je sais que j'ai une grande capacité d'édition assez terrifiante, les ingé-sons qui bossent avec moi peuvent me voir d'un coup enlever 80% d'une chanson et ça me fait pas peur, je préfère ce qui est nu en plus, donc en musique.
Vous visez les purs quand même, less is more.
Ouais,
quoi.
Ouais. Et souvent il faut en mettre pas mal au début pour comprendre ce qui tient. Le dernier album, pas le dernier EP qu'on vient d'écouter, mais l'album avant.
Qui s'appelle Soliloquie.
Soliloquie, j'ai commencé en faisant tout bottine-voix. Je tapais avec mon pied pour faire une rythmique et juste avec la voix, parce que si ça marche comme ça, s'il y a un rythme, s'il y a une différence entre un couplet et un refrain comme ça, là je savais qu'on pouvait mettre plein de sons et après que j'allais pouvoir enlever la majorité de ce son. Donc c'est des allers-retours, mais effectivement je pense que avoir le temps est la chose, est le plus grand luxe, que les choses retombent avec le temps et que la musique, quand je dessine, je dessine avec un trait d'encre, je remplis des fois de couleurs, mais pas plus que ça, et j'ai vraiment l'impression qu'un trait est ce qui délimite le plein et le vide. Quand je chante, c'est la même chose. Je travaille bien plus avec le silence. C'est ça,
la respiration. Et c'est d'ailleurs une des conditions de la résonance, hein, dont parle Hartmut Rosa. C'est que pour qu'on puisse revivre, pour qu'on puisse respirer, il faut qu'il y ait du moment de battement. Pour qu'il y ait de l'intensité, il faut qu'il y ait du moment de relâchement. Pour qu'il y ait du plein, il faut qu'il y ait du vide. Alors je précise par rapport à cette activité de dessinatrice que vous avez sorti un livre de tous vos dessins et vous avez aussi illustré une version de Just Kids de Patti Smith. Et justement, je vous propose d'écouter Patti Smith.
J'ai commencé à écrire de la poésie très jeune. C'était pas très bon, mais j'aimais ça. Très tôt, ma mère m'a donné des recueils de poèmes pour enfants. Je lisais très jeune, donc à l'âge de 6 ou 7 ans, je lisais des petits poèmes de William Blake, de Yeats, beaucoup de poèmes sur les elfes, les fées, beaucoup de poésie, Robert Louis Stevenson. J'aimais la poésie et je composais des petits poèmes. Et puis, à 16 ans, je découvre Arthur Rimbaud. Et l'idée de ce qu'est la poésie s'est vraiment révélée du jour au lendemain. Jusque-là, je voyais la poésie plutôt comme un langage mystique.
Alors, c'était Patti Smith qui parlait de poésie. Alors, avant, finalement, ce que vous disiez avant l'extrait, cette manière de chercher le vide par le plein, de laisser respirer, c'est aussi une définition de la poésie, au fond, de pas surcharger, quoi. Et quand elle dit Patti Smith qu'elle découvre Rimbaud, à mon avis, c'est ça qu'elle découvre.
Oui, je pense qu'il y a... En plus, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais après, c'est ça qui est merveilleux avec Patti, c'est qu'elle est très généreuse, et donc entre ses écrits, ses interviews, et puis la vie qu'elle a eue, elle a tendance à être assez claire sur ce qu'elle ressent. Je pense aussi qu'il y a un romantisme qui est lié à une époque, à une idée de... Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui englobe le tout. Et ça se voit d'ailleurs, elle a un amour pour la France qui est partie de là, qui est... Il y a presque une innocence. Moi, j'adore. C'est une des rares qui peut chanter dans une chanson Go Rambo, Go Rambo. Et on se dit que nous, en salopards de cynique français, je veux dire, le jour où on arriverait à gueuler Vas-y Rimbo, vas-y Rimbo, on aurait du mal. Il y a quelque chose de sublime dans le fait que je pense qu'elle a surtout découvert qu'on pouvait se consacrer à quelque chose, qui soit compris ou non, et que très certainement, venant du milieu plutôt modeste et ouvrier américain, c'est une grande révélation que de se dire qu'on peut se consacrer aux mots, se consacrer à ce qu'on ressent, passer notre vie entière, quelle joie et quel luxe et fardeau par moment, mais surtout choisi, donc luxe, de pouvoir passer son temps à analyser nos propres émotions et avoir le droit de les balancer, de les cracher. Elle mon Dieu, qu'elle s'est chantée, qu'elle s'est crachée sur la tronche du premier rang aussi, qu'elle, tout sort. Et je pense que, qu'avec un Rimbaud, elle découvre ça aussi, et quelque chose d'impertinent là-dedans. Elle le dit d'ailleurs, que le premier Rimbaud, elle l'a volé dans une boutique, et que, qu'elle incite tout le monde à voler de la poésie s'ils en ont besoin. Donc il y a l'acte punk, il est là-dedans aussi, je pense.
C'est un très bon conseil que je donne aux auditeurs cet été. Allez voler une saison en enfer de Rimbaud. Et alors, comment s'est passée votre rencontre avec Patti Smith ?
Elle s'est passée sur plusieurs niveaux. Déjà, on s'était croisés. On s'est croisés une première fois dans un restaurant à New York, où je l'avais pas vue, mais sa fille arrêtait pas de me regarder, en fait, pendant tout le dîner. Et au bout d'un moment, elle s'est... la personne qui était de dos. En plus, elle a des vieux cheveux gris et ça pourrait être de dos. Patti, ça peut être un type comme ça peut être une femme. Donc, j'avais pas fait gaffe que c'était Patti. Et puis, elle s'est retournée et elle m'a dit « Ma fille, depuis tout à l'heure, dit que vous me ressemblez quand j'étais jeune. » Et donc, je lui ai dit merci pour le compliment, évidemment. Et qu'elle me plaisait depuis longtemps et qu'elle me plaisait beaucoup et qu'elle était comme une sorte de mère spirituelle. Et elle m'a dit « Well, babe, you can call me mother anytime. » Donc ça, évidemment, ça m'a énormément plu. Et puis la proposition pour illustrer Just Kids, elle est venue de la maison d'édition avec l'ambiguïté que c'était un retirage d'un livre. Donc Patti avait pas son mot à dire, en fait. Donc,
ah oui, d'accord.
Quelque chose de bizarre qui était de travailler pour quelqu'un qui vous plaît beaucoup, sachant qu'elle allait découvrir qu'à la fin.
Et alors, en gros, quand elle l'a découvert?
Ah ben c'était un de vos collègues, c'était Antoine Decaune qui a réussi à la joindre quand j'étais en direct avec lui pour qu'elle dise qu'elle avait énormément aimé la collaboration. Ce qui en tout cas était intéressant pour moi, c'était de me rendre compte que c'était très compliqué, et c'est pour ça que Patti a pu m'inspirer comme beaucoup d'artistes de la Renaissance. Patti chante, peint, dessine, prend des polas, est une icône de mode d'une manière ou d'une autre. Son aura un peu, sa magie sur toutes les choses qui l'entourent. Et donc, quand je me suis retrouvée à devoir illustrer ce livre, j'étais sacrément emmerdée parce que je me retrouvais avec deux artistes qui avaient une empreinte visuelle, qui avaient une écriture, manuscrite qu'on connaissait, qui avaient les deux des dessins, les deux des photos. Et donc, illustrer quelque chose qui est déjà si riche en illustration n'était pas un cadeau facile, finalement. Et je me suis rendu compte, à force de tourner autour, que je pouvais les dessiner sans tête, rien qu'avec la silhouette des corps, en un seul trait, et qu'on les connaissait tellement, en fait, qu'ils prenaient toute la place. Et ça m'a fasciné sur le travail d'iconographie, de se dire, mais c'est quand même incroyable, je pouvais dessiner la n'importe quelle pochette de Patti, on la reconnaissait dans la seconde. Je pouvais enlever les mains, enlever le corps entier, d'un coup juste une chemise.
Le minimum, quoi, la petite silhouette,
tout de suite,
le trait. Quoi.
Ouais. On savait que c'était Patti. Robert, pareil, avec tous ses pantalons en cuir, les énormes ceintures, les dessiner un liste, n'importe quoi, d'un coup, résonnait. Donc ça a été un immense plaisir. Après, travailler avec du rouge et du bleu, parce que l'un se nommait bleu, et puis il y avait une violence d'un côté, une retenue de l'autre. Donc de trouver la dualité qui me plaît dans ces crayons simplicissimes, d'avoir du bleu, du rouge, d'avoir des contraires, en fait. Et effectivement, comme quand je rentre en studio, j'ai tendance à demander qu'on vienne avec 2 voire 3 guitares maximum, 4 ou 5 pédales maximum, et qu'on apprenne à faire avec ce qu'on a. Je redoute les options, je redoute les avoir 50 crayons de couleur, ça m'angoisse.
Vous avez une assez forte exigence, en fait.
Ouais, je suis chiante. mais parce que déjà, à quoi bon sinon ? Je vois pas l'intérêt, et je vais faire au mieux, parce que sinon, oui, voilà, je vois pas l'intérêt d'essayer de faire autre chose.
Qu'elle vient d'où, cette exigence ? Est-ce que c'est les premiers chocs en écoutant, je sais pas, Rita Mitsouko ? Est-ce que c'est lié à votre famille ? Tout le monde n'a pas cette exigence. Plein de gens font des choses et puis les balancent comme ça quand c'est à mi-chemin en disant voilà.
Il y a un double, il y a deux positions. Je pense très certainement il y a une éducation. Mon père vient d'un milieu extrêmement modeste, ouvrier, qui est passé par toutes les étapes les plus simples pour accéder au cinéma. C'est quelqu'un qui a commencé en laboratoire, qui a développé des pellicules, qui avait les mains dans la chimie pour doucement arriver vers le montage, pour doucement arriver vers travailler avec une caméra, pour finalement faire des courts-métrages. Donc déjà, c'est rare d'avoir un cinéaste qui a qui connaît finalement autant la pellicule que la caméra, que tous les procédés, et qui considèrent que c'est une chance immense que d'avoir eu le droit de faire ça et de ne pas être à l'usine comme ses parents. Et de l'autre côté, ma mère, qui effectivement vient d'un milieu aristocratique anglais et qui ont une grande fantaisie, une grande folie anglaise, mais pareil, ça bosse, et ça bosse pour de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée de faire semblant. Donc petite, ma mère, si elle faisait un film, alors tout le monde rigole toujours un peu sur sa fantaisie légère, comme s'il n'y avait pas forcément de travail. Moi, quand j'étais petite, c'était de la voir tourner dans des taverniers, et puis c'était elle qui, pendant 2 mois, apprenait le texte d'une langue qu'elle ne maîtrisait pas,
c'est dingue, ouais.
Des mots qu'elle ne comprenait pas forcément, de la langue de Gainsbourg, qui est pas simple à chanter. Donc c'est des gens que j'ai vus travailler.
Donc finalement, vous avez hérité de cette exigence, au fond.
Bah, c'est effectivement me disant... oui, ça t'écorcherait la gueule de bien le faire, donc c'est un peu violent de le dire comme ça, mais en même temps, c'est vrai, c'est une chance, et moi, donc, j'ai hérité du plaisir du travail, parce que c'est un vrai plaisir que de se mettre au travail, et puis de l'autre côté, tant mieux pour moi, parce que ce statut d'enfant 2 est tellement compliqué que vu qu'on part du principe que ça a été facile, autant vous le compliquer un peu, votre, votre position.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences? Doit-on croire en cette chance? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Et sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent, et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis, sont devenus qui? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris? C'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière.
Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser.
C'était Jusqu'à la lumière de Baptiste W. Hamon.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Lou Doyon ce matin. On parle de musique, de cinéma, de ses dessins aussi. Je précise que le Just Kids de Patti Smith qu'on a évoqué, illustré par Lou Doyon, est sorti en octobre 2020 aux éditions de Noël, qu'on peut encore le trouver en librairie. Et puis avant cette jolie pause musicale avec ce Baptiste W. Hamon, que je crois, Lou, vous connaissez. Oui. Avant ça, vous parliez de votre exigence, de votre sérieux au fond. Enfin, vous disiez « je suis chiante », mais on avait compris que ça veut dire aussi que vous êtes exigeante. Et vous disiez, voilà, vu ma famille, qui je suis, donc je précise pour tout le monde que vous êtes fille de Jane Birkin, mais aussi fille de Jacques Doyon, demi-sœur de Charlotte Gainsbourg, donc vous avez souvent été regardée à travers ce prisme. Si je reviens au thème de l'émission...
Il y en a plein d'autres aussi, hein, si vous voulez.
Ouais, bon, allez-y, rajoutez-moi deux, trois.
Non, mais des fois je me dis, on pourrait avoir au-dessus de la porte, established, en comme les... comme, voilà, bouché depuis... depuis 1985, effectivement, ma mère est déjà enfant d'eux et vient en France pour échapper à sa mère, à elle, et puis il y a des oncles et des cousins. Enfin, on a eu la chance de tous faire des métiers qui font qu'on a intérêt à être exigeant, sinon on coule assez vite.
Vous êtes un peu, moi j'ai l'impression, parfois je me dis que les Gainsbourg, Doyon, tout ça, c'est un peu notre famille royale à nous, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que, puisque vous avez été regardé toujours, avant que de faire des choses. Et donc finalement, on a tous ce problème, hein, de prendre conscience de son identité, d'abord à travers le regard des autres, mais pour vous c'était plus fort, c'était pire, plus intense. Mais est-ce que justement la voix, cette résonance qu'on travaille depuis le début dans cette émission, est-ce que c'est pas une manière, au fond, d'échapper au regard, justement ?
Oh oui, 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 complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a la musique à cette capacité-là. Quand ça se passe bien sur scène, c'est le moment où on voit que vous êtes dans les gens, d'une certaine manière, et qu'en même temps, vous avez disparu. Moi, je sais quand je vois des couples se rouler des pelles, ou des gens fermer les yeux et partir dans l'histoire, ou même l'étrangeté, mais la radio a cette possibilité-là aussi. On est dans l'intime, on est dans des cuisines en ce moment, on est dans des chambres à coucher, on est dans des salles de bain. Il y a quelque chose de merveilleux avec la voix. On peut s'immiscer dans l'oreille de quelqu'un. C'est presque... Oui, c'est un pouvoir assez magique. Et c'est vrai que la voix, tout comme la danse, je pense que c'est très certainement la première chose qu'on a fait, c'était de raisonner avec soi, de raisonner avec les autres, de chanter, de... Voilà, moi je le vois avec... avec une grossesse qui vient d'avoir lieu, quand j'ai la guitare contre moi et que je chante, ça fait tout un bordel à l'intérieur. Je vois bien
ça résonne.
Voilà, que ça bouge et qu'effectivement on entend les voix de nos mères de l'intérieur avec une sorte de distorsion bizarre. Qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Quel est le son qu'on reçoit dedans? Enfin, la voix, il y a rien de plus émouvant, il y a rien de plus beau. Et d'ailleurs, il y a rien de plus fickle, comme diraient les Anglais, de plus qui disparaît plus vite. Quand les gens meurent, on se rend compte que la première chose qu'on oublie, c'est leur voix. Ça, c'est terrifiant. On peut pas l'accrocher. Ça revient des fois dans les rêves, mais sinon, c'est presque la première chose qui part. Et donc, il y a quelque chose d'éternel et d'étrangement fugace dans cette histoire de la voix qui transporte les voix qu'on aime bien, les voix qu'on n'aime pas. On aurait du mal à expliquer pourquoi certaines voix nous agacent. Ouais. Mais
pourquoi vous aimez tant, par exemple, la voix de Christophe Ondelat ? C'est une question.
Moi, j'aime quand Christophe Ondelat prend plein de voix. C'est ça qui me fascine. Non, mais alors là, pour le coup, ce qui me fascine, et je pense que pour être moins anecdotique que ça, pour de vrai, je suis absolument fascinée. Et c'est pour ça que dernièrement, j'aime beaucoup, beaucoup la poésie, énormément les biographies, encore plus les autobiographies, les journaux intimes, les lettres. Et j'ai du mal avec la fiction parce qu'effectivement, ce dont l'être humain est capable est souvent assez supérieur à des fictions qu'on un peu trop lisses aujourd'hui. Et alors les faits divers, il y a quelque chose d'absolument délirant dans ce moment de rien du tout qui fait que tout bascule. Ça me passionne, mais dans la vie en général, au cinéma, on a tendance à créer de l'événement, comme si l'événement amène à quelque chose. Ce qui est beau, c'est effectivement Bah, c'était pour rebondir sur une chanson et une chanson sur le dernier album sur Soliloquy qui s'appelle Nothings. C'était une conversation que j'avais avec mon père par rapport à une conversation à une critique de Deleuze par rapport à Bergson qui critique le cinéma et qui dit effectivement que le cinéma pourra jamais être la réalité parce que vu que c'est accroché dans une pellicule qui donne un temps donné avec un temps qui est rythmé de la même manière, ça n'est pas la vie vu que la vie c'est que de l'entre-événement. Mmh. Et que à partir du moment où on fait le point que sur les événements, on perd ce qui est la vie, qui est un non-événement, finalement. Et c'est vrai que Nothings est sur la disparition de quelqu'un, et qu'effectivement, quand on se retrouve à devoir faire résumer quelqu'un, c'est assez terrible, on est obligé de résumer avec des actes, et en fait finalement on se rend compte que c'est que les choses qui sont inexplicables qui nous manquent, c'est que la brosse à dents y soit plus, c'est les silences qu'il y avait entre les pas, c'est tous les riens en fait, c'est les nothings, et effectivement je pense que la vie, quand on écoute en fait entrer l'accusé ou qu'on regarde voilà pourquoi Simenon est merveilleux aussi, parce qu'on se rend compte que c'est dans un non-événement que d'un coup le drame arrive et on se dit mais pourquoi. Ouais,
c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai entendu cette chanson, donc c'est Nothing sur l'album Soliloquy de 2019 je crois, c'est que vous étiez anti-sartrienne. Sartre dit un homme n'est que la somme de ses actes, et vous ce que vous dites non, c'est ce qu'il y a entre les actes qui est intéressant, c'est d'ailleurs aussi ça peut-être qui est l'objet du cinéma.
Je pense qu'en tout cas, moi, c'est ça qui me fascine. Je sais que mes dessins ne sont que sur le quotidien. Le quotidien me plaît bien plus que l'événementiel. J'ai jamais aimé les romans de héros. J'aime plutôt les romans de losers. J'ai une collection, par exemple, qui m'amuse beaucoup de plumes de pigeons et qui est évidemment, à chaque fois, je note le pays, l'heure et évidemment, les gens regardent en disant, mais t'es con, c'est toutes les mêmes plumes de pigeons. Je dis, oui, mais justement, c'est ça qui m'intéresse énormément.
Elles ne sont pas exactement pareilles.
Elles sont pas exactement pareilles. Je suis ravie d'avoir un amateur de plumes de pigeons comme moi. Mais surtout, c'est ça la beauté. C'est que cette plume de pigeon, j'ai 19 ans, c'est à Tokyo. La plume à côté qui lui ressemble complètement, j'ai 35 ans.
Et puis, il y a quand même.
Et je suis ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a une étrangeté dans le dessin de la plume. Quelque chose d'étrange qui surgit, non?
C'est même pas ça, c'est le fait qu'il se sera passé tant de choses qui finalement change quoi.
Vous voulez dire que vous accrochez des souvenirs à ces plumes de pigeon en vous demandant ce qui importe le plus?
Bah, c'est que tout sera, on aura beau appeler ça autre chose, on peut appeler ça une victoire de la musique, at the end of the day. C'est juste une plume de pigeon comme les autres. Ça n'aura eu du sens que pour moi, peut-être pour les personnes grâce à qui je l'ai eue. Mais sinon, quelle tragédie que d'être en vie et quelle beauté que de voir tout le monde prendre cette histoire atroce aussi bien. Voilà, moi, ça me fascine que les gens aient quand même envie de se rouler des pelles, danser ensemble, chanter et pas juste s'allonger et éclater en sanglots à l'idée qu'on va perdre tout ce qu'on aime, que ça se terminera quoi qu'il arrive mal. Je trouve ça absolument merveilleux. Donc, c'est un mélange d'euphorie et de profonde déprime. Et la plume de pigeon me met pile.
Ouais, et puis aussi, non, on entend ça quand vous chantez ce mélange comme ça de gravité et de légèreté, cette espèce de joie qui vient aussi de cette sorte de lucidité sur le fait que tout ça finira mal. Vous chantez jamais en français. C'est dommage parce que, enfin, vous le faites parfois. J'avais adoré la reprise de Claude François, Alexandrie, Alexandra. Pourquoi finalement vous interdire cette quand vous chantez, ce qui est la moitié de votre culture?
Parce que pour l'instant, c'est jamais venu naturellement. Et effectivement, je trouve, mais ça c'est comme n'importe quel bilingue de naissance, on associe des choses à la langue. Donc c'est vrai que la langue anglaise pour moi était le langage secret, parce que j'avais de la chance quand j'étais plus jeune de le parler avec ma mère et que on est dans un pays où les gens n'étaient pas forcément super doués en anglais, donc ça pouvait être un langage secret que de se parler en anglais dans un bus. Mais surtout, c'est la langue du sentiment. Et je trouve que c'est flou. Alors, c'est étonnant de voir qu'il y a plus de mots en anglais qu'en français. Moi, j'aurais toujours cru qu'il y en avait plus en français.
Ça dépend. Je pense qu'il y a plus de mots pour la vie quotidienne, mais il y a moins de mots pour dire des concepts abstraits.
Voilà, mais je pense que là, les Allemands gagnent. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est terriblement simple. Il y a une sorte d'éloge du simple, j'aurais envie de dire. C'est un peu résumé, si ça se trouve, j'ai tort. Mais il y a quelque chose de... Le français, Et aussi parce que j'aime beaucoup, beaucoup la littérature française, et donc j'ai des exemples absolument divins de manière de manier la langue, forcément, et de paroliers français, de grands paroliers. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de complication, il y a une forme de fabrication au moment de faire la chanson, qui va pour l'instant à l'encontre de ma manière de
D'accord.
faire.
Je comprends.
Dès que je prends du temps et que je me dis haha, là t'es vraiment maline, ça me débecte assez vite en fait. Je trouve que j'ai pas le droit et que je suis peut-être pas si maline que ça.
C'est pour ça que vous n'avez fait pour l'instant qu'une reprise de Claude François que je recommande vraiment à tous nos auditeurs. Lou Doyon, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin sous le soleil de Platon. Pour vous remercier, je vais essayer de dresser pour nos auditeurs le portrait de la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Alors une philosophie deleuzienne.
Bonne chance.
Une philosophie, c'est Deleuze qui disait nous sommes des machines désirantes. Mmh. Une philosophie, on l'a dit, anti-sartrienne, vous n'êtes pas pour l'objectivité pure qui ferait qu'on résumerait une vie à une somme d'actions. Il y a des petits riens, il y a autre chose. Et puis aussi, bien sûr, une philosophie propre qui ressemble à celle du philosophe Hartmut Rosa. Vous nous expliquez qu'il y a une solution dans ce monde de l'accélération, ce monde de la quantification, ce monde de la hâte, c'est d'entendre un peu la vie résonner. Merci beaucoup Lou Doyon pour cette invitation à la résonance. Je recommande votre dernier album, Solidoki, votre livre de Just Kiss de Patti Smith illustré, et puis moi j'ai un petit faible pour Questions and Answers, une chanson qui a 10 ans. Je recommande à tout le monde de l'écouter sur la plage en ce mois d'août. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Camille Mathy et Théo Raison. Elle a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois. À la technique, Mathieu Bérény. Merci beaucoup. À demain matin.